premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. C'est de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. Tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Que fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Que fait les mecs, ça va saigner.
Tous et à toutes, vous êtes bien dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Autour de la table, il y a un tout petit peu de monde. Il y a Serge.
Pas beaucoup. Salut tout le monde.
Il y a Greg.
Salut.
Il y a G au bocal. Et il y a Sylvia qui vous salue.
Salut Sylvia.
Salut, coucou. Ouais.
S'il y a un peu moins de monde, c'est parce qu'on est en train de faire le prochain journal. Donc il y a les copains qui travaillent, eux, dans le sud.
Ils travaillent ou en vacances, je ne sais pas. La fille, elle est culottée quand même, tu sais.
Donc voilà. Donc ça va être une émission un peu remplie d'enregistrements, en fait, qu'on a fait avec les copains qui sont dans le sud. Voilà. Et donc on va commencer en fait par une discussion avec la femme d'un prisonnier longue peine. Donc ça va être Estrella qui on va discuter. Après derrière on va faire, donc ce sera un enregistrement. Voilà. Après derrière il y aura le son du rassemblement qu'il y a eu devant Mo à la suite de la mort de Jimoni Rousseau. Et on terminera par un appel des CRAS du Ménil. Voilà. Avant, tu voulais commencer en lisant un petit texte.
J'aurais voulu que tu commences en lisant, parce que je ne sais pas lire à haute voix.
Je vais le faire.
En ne disant pas la maison d'arrêt où il est incarcéré, par contre, parce que j'ai deux, trois trucs en plus à rajouter. Donc, c'est une maman qui a écrit une lettre pour dénoncer ce que son fils a subi, pour préserver son enfant et la famille qui ont porté plainte. On ne va pas donner le nom de la prison, par précaution et sécurité, mais ça en dit long sur le comportement de l'administration pénitentiaire.
Bonjour à tous. Je viens dénoncer ce qui s'est passé le 6 mars 2021 dans la maison d'arrêt où mon fils est incarcéré. Les faits se sont passés aux environs de 15h30 à 16h. Je rendais visite à mon fils au parloir à 15h qui a duré 30 minutes. Le parloir s'est très bien passé. Lors de la fouille, on nous a mis dans une salle où on devait patienter. Je n'étais pas la seule, plusieurs familles étaient présentes, dont la petite amie de mon fils qui est âgée de 21 ans. Lors de notre attente, j'ai entendu mon fils crier. Il était victime de violences de la part des gardiens de prison. Un gardien m'a entendu crier et est monté en courant pour voir ce qui se passait, en demandant pourquoi mon fils criait. Sa réponse, je pense que c'est elle qui demande ça, sa réponse était qu'il n'a rien vu. Les gardiens soupçonnaient que mon fils cachait quelque chose sur lui. Pourtant, lors de la fouille, ils n'avaient rien trouvé. Cependant, ils ont pris la liberté d'approfondir la fouille alors que c'était interdit. Leur méthode était très agressive et brutale. Mon fils était nu, il a été menotté, battu et violenté. Je précise aussi qu'il a été victime de sévices sexuels, car les gardiens de prison voulaient lui mettre une clé dans les fesses. Ils l'ont aussi jeté et malmené sur le mur et le lit, totalement nu. C'est inhumain et immonde. La violence est interdite. Les gradés et les surveillants sont là pour faire respecter les règles de l'établissement et non faire subir des violences injustes et cruelles. Je demande à ce que ces gardiens soient punis et déchus de leur fonction de gardien de prison. Par ailleurs, je soutiens la famille du jeune qui a été tué à Meaux, donc Jimoni, par un gradé. Je suis très triste pour cette famille. Il faut que justice soit faite pour les personnes qui ne respectent pas la loi. Il y a la prison pour les voleurs. Il doit y avoir la prison pour les surveillants de prison violents.
Je voulais rajouter que j'ai eu cette maman au téléphone, bien évidemment, que nous soutenons l'envolée, soutenons à 100% cette famille et ce prisonnier, que nous ne lâcherons pas l'affaire. Nous voulons aussi dire que nous avons... il y a une lettre qui a été écrite à la direction. On a une réponse de la direction, bizarrement. Une réponse une réponse, j'ai pas trop envie d'en dire, mais en tout cas...
Bon, de toute façon, en tout cas, on suivra cette affaire avec attention, ça fait vachement écho à des faits qui sont relatés, enfin, qui ont été exprimés là sur ce qui s'est passé dans le commissariat du 19e, où pareil, ça a été un viol lors d'une fouille, qui sont sortis dans la presse il y a 2-3 jours. C'est une méthode, en fait... qu'on constate, qui est classique, en fait, de faire des viols pour aller vérifier, soi-disant durant les fouilles, s'il n'y a pas des choses qui sont dissimulées dans ton cul, quoi. C'est des viols.
Rappelons que c'est exactement.
On en reparlera quand on pourra raconter plus de choses et tout. Pour l'instant, il y a quand même
c'est
important de préserver la sécurité de sa sécurité. Donc on commence par un petit son d'Estrella. Tu voulais pas faire ton appel à témoin pour commencer ?
Je voudrais faire un appel à témoin. Alors oui, effectivement, voilà. Alors à la prison de Liancourt, il y a un jeune homme lundi qui est mort. Ça a été dit de suicide. C'est un Algérien qui est arrivé il y a pas longtemps là-bas, qui a fait son quartier d'arrivant, qui a été placé au quartier des condamnés, puisque c'est un centre de détention. Il faisait le ramadan. Il est descendu en cours de promenade. Étant donné qu'il venait d'arriver, il n'avait pas de cantine pour pouvoir casser le ramadan le soir. Et donc, ses camarades lui ont dit qu'ils allaient lui donner à manger. Il était très content, très souriant. Tout le monde l'a apprécié en disant que c'était un gentil gars. Normalement, dans cette prison, il y a une fouille tous les jours à 1h30. Cette fouille-là, ce jour-là, n'a pas eu lieu. À l'ouverture des portes à 14h, il aurait été retrouvé pendu. Toute la prison a été bloquée. Donc, il y a plus de promenade, il y a plus de travail, plus rien. Tout a été bloqué. Ça s'est passé au bâtiment A. Si vous savez ou vous avez entendu des cris ou si vous avez entendu quelque chose, je vous en supplie, écrivez à l'émission L'Envolée à 1 rue de la Solidarité, Paris 19e, c'est très important. Il ne faut pas les laisser faire sans rien dire. Voilà, c'était le Ramadan, c'est un moment sacré pour les musulmans. Et il n'est pas concevable qu'un homme se suicide pendant ce jeûne. Voilà.
Donc on n'a pas rappelé les contacts au début de l'émission, c'est le moment de les rappeler. Donc pour nous écrire, c'est l'envolée-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75 019. Par mail, c'est contact@l'envolée.net. Pour nous appeler, c'est au 07 52 40 22 48. Donc 07 52 40 22 48.
Il ne connaît pas par cœur, il a une antisèche.
Et il y a tous les réseaux sociaux. Voilà. On n'aime pas les poucaves normalement, l'envolée.
Je vous cave pas, je renseigne. C'est pas pareil.
Mais voilà. Donc, n'hésitez pas. Et si à Liancourt vous entendez cet appel et tout ça, n'hésitez pas à diffuser et à faire en sorte que ça soit un peu plus clair cette histoire, parce qu'en effet, c'est quand même très 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 louche. Donc on commence par le témoignage d'Estrella et
qui est une femme de prisonnier longue peine. Et qu'on embrasse fortement ici à l'antenne.
Grave, on la salue. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas passée d'ailleurs, on lui dira. À tout à l'heure.
Bonjour Estrella.
Bonjour Gaëlle.
Merci de répondre à ce coup de fil qui va nous permettre de savoir un petit peu, que tu nous racontes en tout cas ce qui se passe depuis un an, depuis le début du Covid, par rapport au parloir.
D'accord.
Parce que ton mari est en prison.
Oui, exactement, il est en maison centrale.
Voilà.
Depuis plusieurs années.
C'est ça. Et vous avez deux enfants ensemble.
Exactement. J'ai mon fils qui est né au mois de juin 2020, donc qui est né juste après le début du confinement.
C'est ça. Donc il y a un an, le 16 mars, les parloirs de toutes les prisons de France se sont arrêtés du jour au lendemain, brutalement.
C'est ça, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a su qu'on allait être confiné, et du coup, le week-end juste avant le confinement, en fait, on savait que c'était nos derniers parloirs avant qu'ils arrêtent complètement les parloirs pour un temps qui était à ce moment-là indéterminé. Et du coup, les parloirs, ils sont arrêtés complètement pendant 2 mois, il me semble, jusqu'à début mai, si je me souviens bien.
Oui.
Donc, pour commencer, on n'avait aucune possibilité d'avoir de parloir. Et après, quand les parloirs ont recommencé, il y a eu... dans la prison où mon mari est incarcéré, ils ont carrément mis le détenu dans un box et les familles dans un autre box avec une vitre où on pouvait simplement se voir. Et donc, aucun contact physique, pas se toucher, etc.
Avec masque obligatoire à ce moment-là ?
Masque obligatoire, si vous voulez, tant qu'ils vous mettent dans les box, oui. Après, dans les box, les surveillants, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là à passer, etc. Puisque nous, vu que c'est 2 box distincts, en fait, il n'y avait vraiment aucune possibilité. C'est pas comme s'il y a un plexi, on peut passer la main au-dessus, ou on peut passer la main en dessous, ou quoi que ce soit. Là, il n'y a vraiment aucune possibilité d'avoir de contact. Du coup, a priori, une fois dans les box, les surveillants, ils n'étaient pas forcément très regardants, il n'y avait pas forcément beaucoup de circulation, etc.
Okay.
Mais il y a une autre contrainte, c'est le temps du parloir qui a beaucoup diminué, puisque ça a été, c'était 1h30 de parloir.
Au
début, je crois que c'était qu'un parloir par week-end, carrément. Et à la place de 4h l'après-midi, c'était 3h30 le matin, normalement, en centrale. Du coup, là, ça passait à 1h30 de parloir dans le week-end. Seulement, et avec la contrainte avec le fait qu'on ne puisse pas avoir, qu'on puisse avoir aucun contact.
Ok. Toi, tu y es allé au parloir dans ces conditions, du coup ?
Alors moi, j'y suis pas allé, premièrement parce que mon mari, il a pas voulu nous voir dans ces conditions, puisque initialement, en fait, ça ressemble à s'y méprendre aux mesures de parloir iviaphone.
Oui.
Savoir...
Oui, qui sont des mesures. Non, c'est ça, c'est qui sont des mesures de disciplinaires, en fait. C'est une mesure.
C'est ça, en fait. Habituellement, les mesures iviaphones, c'est s'il y a une faute grave ou si vous avez rentré quelque chose en détention ou quelque chose comme ça. Et là, il n'y avait rien de tout ça. C'est uniquement par rapport à la crise sanitaire. Du coup, mon mari, il n'a pas voulu nous voir dans ces conditions, en sachant que, d'une part, il y a le fait qu'il y ait la vitre, mais aussi le fait que le temps de parloir, il est réduit. que la centrale, en l'occurrence, moi, elle est très loin de chez moi, à plus de 250 km. Ce qui veut dire que j'ai un temps de trajet de minimum 2 h 30 à 3 h aller plus 3 h retour. Ce qui est très contraignant déjà pour moi et même pour mes enfants quand je les ramène. Du coup, en fait, mon mari, il voulait pas de parloir dans ces conditions. Donc, on n'est pas allé au parloir jusqu'au mois de fin septembre, ça a été comme ça.
D'accord, donc
Donc, fin septembre,
il avait,
pardon?
est-ce qu'il a vu ton fils est né au mois de juin, du coup il l'a vu il l'a vu qu'au mois de septembre, c'est ça?
Non, même pas au mois de septembre en fait. Ça a rouvert fin septembre dans la centrale à Moulay. Du coup, nous on est allé qu'au mois d'octobre, donc il l'a vu qu'au mois d'octobre.
Ok.
Donc le petit, il avait déjà juin, juillet, août, septembre, octobre, il avait déjà 4 mois. Donc j'ai pu le ramener, il l'a vu, il l'a pris dans ses bras, etc. Ma fille aussi, elle était contente. Je pense que c'était peut-être sûrement plus difficile pour ma fille puisqu'elle a 3 ans et demi.
Oui, donc elle
Du
avait
coup,
pas.
elle avait l'habitude de voir son père tous les week-ends. Et là, ben, elle l'a pas vu pendant plus de 6 mois, 7 mois même au début. Au mois d'octobre, on est retourné. Donc là, il y avait la contrainte du masque puisqu'il n'y avait plus les vitres. On était obligé d'avoir les masques au parloir.
Et puis il y a eu
Donc
le
on
deuxième
a.
confinement.
Ben, c'est ça en fait. Fin octobre, ils ont. Ben, en novembre, comme nous, quand ça a recommencé le confinement, ils ont remis les vitres en fait. Ils ont remis le même système en place. Du coup, à nouveau, mon mari n'a plus voulu qu'on y aille non plus. Donc, ça fait depuis le mois d'octobre, à nouveau, que mes enfants, ils n'ont pas vu leur père.
Ouais, parce que là, il n'y a pas eu de déconfinement comme la première fois. Ils ont laissé les
Non.
vitres en place entre le deuxième confinement et ce qu'on va appeler le troisième confinement, là, quoi.
Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand les parloirs, ils ont repris au mois de mai, ils ont repris, mais avec les vitres. Du coup, après, vraiment, ils ont commencé à enlever les vitres, je pense, au mois de juillet, et ça dépendait des prisons. Et du coup, là, en fait, vu que nous, on a eu d'abord le couvre-feu, ou je sais pas, on a eu d'abord le confinement, après le couvre-feu, etc., pour eux, ça reste. Étant donné que nous, à l'extérieur, on continue à avoir des contraintes, eux, pour eux, ils laissent les vitres et ça reste comme ça, quoi.
Ok.
Déjà, d'une part, je comprends pas, et je comprends toujours pas aujourd'hui. Comment ça se fait qu'il y ait plein de personnes qui rentrent finalement et qui sortent de détention, que ce soit les surveillants, donc j'imagine que la prison elle a besoin entre guillemets de tourner avec les surveillants, donc ça c'est un fait, mais il y a aussi d'autres intervenants qui rentrent en prison et qui peuvent voir les détenus sans forcément avoir la même contrainte que nous, à savoir les avocats, puisqu'il faut savoir qu'au parloir avocat, le détenu et l'avocat, ils n'ont pas de vitre. Il faut savoir que mon mari, s'il a rendez-vous avec sa SPIP, il n'a pas de vitre. S'il a rendez-vous avec n'importe qui en détention, il n'y a pas de vitre. Que les masques, ils ont été distribués en détention vraiment très tardivement. À savoir, au début, il y avait les surveillants qui rentraient, qui sortaient en permanence, qui, eux, peuvent voir leur famille, les embrasser, faire ce qu'ils veulent, en fait, vivre comme nous dehors. Parce qu'effectivement, il y a un couvre-feu. Mais qui est-ce qui respecte à la lettre les couvre-feux? Qui est-ce qui respecte le fait qu'on ne peut pas se réunir à plus que 6? Aujourd'hui, en fait, c'est. Les contraintes, elles restent uniquement pour nous, les détenus et les familles de détenus. Mais après, sinon, les détenus, ils sont amenés à croiser d'autres personnes. Notamment les surveillants, comme je vous dis, qui continuent à vivre normalement et qui eux, sont amenés réellement à rentrer le virus si tant est qu'il y avait quelqu'un qui devait le rentrer, quoi. Moi, mon mari, il s'est fait envoyer des masques. On a envoyé des masques, du gel hydroalcoolique à mon mari. On a envoyé plein de choses au début du confinement. Lors du premier confinement, la tôle, ils ont refusé. Ça veut dire les colis, ils ont été envoyés. Là-bas, ils ont reçu, ils ont mis de côté. Ils ont rien transmis. Parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas de directive pour que les détenus portent un masque, etc. Donc en gros, ça veut dire que le détenu qui avait envie, lui, de porter un masque pour se protéger, il pouvait même pas le faire. Même si c'était nous, les proches, qui lui envoyions le nécessaire, quoi.
C'est ça, et même s'ils se le fabriquaient.
Ouais, éventuellement, ouais. Non, non, je crois qu'ils n'avaient même pas le droit d'exactement de porter un masque, en fait.
Ouais, c'est
Et
le problème.
après, du jour au lendemain, c'est passé, c'est devenu obligatoire, a priori, c'est devenu obligatoire pour eux de le porter.
Ouais.
Alors, bon vouloir, quoi, comme d'habitude.
C'est ça. Ouais. D'absurdité en absurdité, quoi. Du coup, toi, ton mari, par exemple, là, il refuse de voir certaines personnes justement
Ah bah oui, tout à fait.
sur cette absurdité-là en disant je peux pas voir ma famille, je peux pas les toucher, je peux pas les embrasser et je dois aller voir ma spip, je dois aller voir mon avocat, qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Bah c'est ça, il a vu une ou deux fois son avocate parce qu'il en avait besoin, entre guillemets. Mais sinon, à chaque fois qu'il a été convoqué par la SPIP, ou même par la directrice des SPIP également, puisqu'il doit peut-être bientôt aller au CNE, en fait, il a refusé de s'y rendre, en expliquant et en disant que c'était pas normal qu'il puisse les voir sans vitre et nous, c'était pas possible, quoi.
Et il reçoit une réponse par rapport à ça ou c'est silence radio?
Non, il continue à le convoquer derrière, donc je pense qu'il pense qu'il va céder, quoi.
Ouais, qui va céder.
Autant lors du premier confinement, bon, il y a eu beaucoup de, soi-disant, il y a eu beaucoup de détenus en fin de peine qui ont pu avoir des aménagements de peine et du coup qui ont pu sortir un peu plus rapidement, peut-être 1 ou 2 mois avant réellement la date à laquelle ils devaient sortir. Mais sur ce deuxième confinement, en fait, c'est plus du tout le cas, en fait. C'est
Ouais.
comme si de rien n'était, quoi. Il y a encore plus de détenus que l'année dernière, en fait. Finalement, la population carcérale, elle est remontée. Autant elle avait un petit peu diminué. Elle avait baissé lors du premier confinement. Et là, derrière, elle est remontée. Donc là, à nouveau, il y a une surpopulation carcérale, notamment dans les maisons d'arrêt, etc.
Et toi, comment t'interprètes tout ça là?
Bah, moi, j'ai pas envie de faire la victime, mais comment dire, j'ai envie de dire comme à chaque fois. Les détenus, c'est les plus mal lotis, entre guillemets. J'ai envie de vous dire, même les personnes âgées qui sont en EHPAD, qui sont les personnes a priori les plus à risque par rapport à l'épidémie, ils ont rouvert les EHPAD, ils ont vu les dégâts que ça faisait au niveau des personnes âgées, le fait qu'ils n'aient pas plus de contact avec leur famille, etc. Mais pour ce qui est des détenus, en gros, ça a l'air de choquer personne et personne s'en émeut, quoi.
C'est
Et
sûr.
je dirais même pire, en fait, pour ce deuxième confinement, étant donné qu'il n'y a pas eu réellement de suppression de parloirs complètes comme au premier confinement, il y a des gens qui s'habituent à avoir les vitres et à avoir le plexiglas, qui supportent entre guillemets. Alors effectivement, c'est pas l'essence, c'est pas l'idéal, mais après, ils s'en contentent, comme s'ils s'en contentaient. Donc c'est mieux que rien, donc voilà, on dit rien, ça passe quoi. Il n'y a eu aucun mouvement, aucune révolte là pour ce deuxième confinement. Alors que finalement, ça fait à nouveau 6 mois qu'il n'y a plus de parloir ordinaire, que les détenus ne peuvent plus toucher leurs proches. C'est-à-dire, ça fait 6 mois que même les gens qui vont au parloir dans ces conditions, concrètement, ça fait depuis à nouveau 6 mois qu'ils ne peuvent pas reprendre leur mari ou leur copain dans leurs bras, quoi. Franchement, il y a quelques détenus, des amis à mon mari, qui eux aussi. N'ont pas de parloir, refusent d'aller au parloir dans ces conditions, etc. Mais il faut savoir qu'en centrale, il y a aussi. En fait, il y a beaucoup de détenus qui ont leurs proches qui sont très loin de la prison. Du coup, non seulement il y a la vitre, mais il y a aussi le temps de parloir qui est réduit. Maintenant, on a le droit à 2 parloirs dans le week-end, mais il faut que ce soit sur les 2 jours et pas sur le même jour. Donc ça veut dire que c'est super contraignant pour des gens qui viennent, qui font 600 km ou je sais pas combien.
Ouais, il faut que tu
C'est
sois.
super contraignant, en plus de la vitre, quoi. Après, je sais qu'il y a certaines familles aussi qui ont envie d'y aller, même si les conditions elles sont dures, etc. Même moi, je suis retournée au parloir fin février parce que j'avais envie de voir mon mari et que j'avais possibilité de laisser mes enfants à quelqu'un de ma famille. Du coup, je suis partie toute seule au parloir. Mais franchement, c'est pas facile d'avoir un parloir dans ces conditions. J'avais déjà eu un parloir hygiophone, mais il y a des années. Donc c'était une mesure disciplinaire. Donc même si c'était difficile, je pense que c'est plus facile à accepter dans le sens où on sait qu'on a commis entre guillemets, une infraction. Alors que là, en fait, c'est justifié uniquement par rapport au Covid. Mais j'ai envie de vous dire, même les surveillants, quand ils viennent vous chercher à l'accueil famille, ils n'ont pas le masque. Les surveillants, ils mettent le masque uniquement quand ils rentrent dans la prison. Donc c'est. Concrètement, c'est juste c'est du cinéma quoi. Après, moi, ça m'a fait vraiment mal de voir mon mari derrière une vitre et de pas pouvoir le toucher quoi, pas pouvoir le prendre dans mes bras alors que ça faisait des mois que je l'avais pas vu.
Tu m'étonnes.
J'ai jamais depuis que je le connais, j'ai jamais laissé autant de temps sans aller le voir en fait. Vraiment, je suis assidue. Je vais au parloir normalement toutes les semaines, voire éventuellement toutes les 2 semaines si ponctuellement j'ai quelque chose à faire. Mais je suis tout le temps au parloir, en fait. C'est mes week-ends. Et là, ça fait 1 an. En fait, ils nous ont enlevé le peu de contact qu'on peut avoir. Alors là, oui, mon mari, il appelle au téléphone toute la journée. Il nous appelle au moins 3-4 fois dans la journée, même plus. Mais c'est pas pareil.
Ça remplace pas, oui, bien sûr.
C'est pas pareil. En plus, moi, c'est le téléphone, c'est la cabine. La cabine, c'est écouter. Vous pouvez pas, vous avez pas d'intimité, vous pouvez pas dire, vous pouvez pas échanger, vous pouvez pas dire réellement ce que vous ressentez à votre mari. Vous savez que vous êtes écouté, que ça va être surveillé, que tout va être décortiqué, etc.
Il y a des trucs qui te semblent importants que tu voudrais rajouter?
Moi, je voudrais dire que déjà pour un adulte, c'est compliqué d'accepter ça et de le tolérer. Mais en fait, pour un enfant, c'est encore plus difficile de lui expliquer les raisons, les causes, alors que leur quotidien, il est inchangé, qu'ils continuent à aller à l'école, à côtoyer tout le monde, que pour les petits enfants, il n'y a pas de geste barrière. Ça veut dire que quand vous êtes en maternelle, tous les enfants, ils sont collés les uns aux autres, que les adultes et même la maîtresse, comme ma fille elle me dit, des fois elle enlève le masque parce que les enfants ils comprennent pas ce qu'elles disent. La voix est pas articulée, etc. Donc elle est obligée en fait d'enlever le masque. Et qu'à côté de ça, moi je dois l'expliquer qu'on peut pas aller voir son papa depuis 1 an parce que à cause du Covid, il y a une vitre et que du coup elle pourra pas toucher son père et qu'elle sera enfermée dans un box alors que d'habitude elle peut courir dans le parloir et aller où elle veut.
Tu dois faire face à ça en plus tous les jours, essayer de leur expliquer un truc qui est inexplicable.
Ben en
Comment?
fait, ma fille, elle le sait maintenant. Elle sait que c'est à cause du Covid qu'on peut pas y aller, qu'il y a les vitres, etc., qu'elle pourra pas courir. Ça, elle le sait, elle l'a compris. Mais après, moi, elle me voit dans la rue ou quand je suis ailleurs, j'ai pas systématiquement le masque loin de là. Et du coup, je pense qu'elle voit bien qu'il y a c'est pas proportionné, quoi.
L'administration, elle prend la peine d'informer les familles un petit peu ou les prisonniers sur...
Non, à aucun moment. À aucun moment. En fait, ils continuent à faire des commissions pour les UVF tous les mois. Ça veut dire que mon mari doit poser des dates. Moi, je dois envoyer un mail comme quoi j'ai envie d'avoir un UVF avec mon mari, etc. Après, ils nous octroient une date d'UVF. Ça, depuis octobre, novembre. Non, depuis novembre. Novembre, décembre, janvier, février, mars. Tous ces mois-là, on avait un UVF de prévu. C'est marqué sous réserve d'une amélioration. Des mesures de la crise sanitaire, quoi. Du coup, en fait, à chaque fois, les UVF, ils sautent. Mais même ça, on n'est pas informé. On sait parce que les parloirs, ils n'ont pas repris, parce que mon mari me le dit. Mais sinon, à aucun moment, ils renvoient un courrier où ils nous disent, ouais, vous n'avez pas d'UVF, ça va pas mieux, quoi. Non, et puis même au début, le premier confinement, j'appelais des fois la SPIP, etc., pour savoir. Mais eux, ils savent pas. Faut attendre, voilà. On sait pas, on attend.
Et ça fait 1 an que ça dure. Ça commence à être un peu long quand même.
Ouais, c'est ça, plus d'un an même. 1 an et 1 mois. Un
Ouais.
mois et demi. 13 mois.
Pour lui, à l'intérieur, quand même, il y a des activités en moins.
Ça, c'est sûr, ouais, exactement. Par contre, il y a plein d'activités qu'ils ont continué à faire sauter pendant plusieurs mois, etc. Même là, je suis pas sûr que ça ait tout repris, hein. Donc, ça veut dire, en fait, ouais, ils profitent de la crise sanitaire pour faire sauter plein de trucs et, comment dire, avoir moins de travail, quoi.
Ah bah ça
Moins de
oui.
déplacements, moins de salles d'ouvertes, moins de trucs autorisés en fait.
Quelle
Je sais
dingue.
qu'il y a beaucoup moins de, il y a beaucoup de, bon, il y a beaucoup moins de monde qui va au parloir. Parce que moi j'ai une amie qui habite dans la ville à côté de la centrale. Du coup elle continue à, non parce que son mari également veut les parloirs dans ces conditions, elle continue à aller au parloir tous les week-ends. Du coup elle me dit il y a pas grand monde quoi, c'est désert. Il y a deux, trois familles qui viennent au parloir dans ces conditions.
Eh ben, le maintien des liens familiaux, là, c'est bien là.
Ouais, exactement. Ouais.
C'est ça. Mais tu le disais tout à l'heure pour les personnes âgées, mais quand ils ont remis les parloirs pour eux, là, en EHPAD, ils ont employé le mot de torture. Ils ont dit, en fait, les couper comme ça des liens familiaux, c'est de la torture.
Ouais, bah, a priori, pas pour les détenus.
Oui, c'est ça. Deux poids, deux mesures.
Ouais, malheureusement.
Yo mele mele.
laissez-moi expliquer ça gentiment. La jolle pas ni zami, la jolle pas ni sentiment. Jolle là ça coule mes des mains, ça savent tourner au piment. Veillez où elle fait les traites et les walls à surveillant. Veillez où un couloir là toujours fessé à au grand. Mettre machine à aussi où yon de yé, yon d'ouvant. Parce que ça a pété à n'importe qui moment. Les bitins là pas caillou, pis pas fait autrement. Qui ouvre pas, la jolle c'est comme ça, la jolle c'est problème. L'esprit y'a pas tranquille, ou savent prendre en fouille à n'importe qui l'est. Ou fait si y'a au grand qui bat la loi et énergumène. En l'eau qui tourne ou doux pour y'a soucé ou pour en couler. Zami y'a ou savent tourner si ou fou en drogue ou pour l'argent. Yo jike prend contrat si ou fou montrer moun yo méchant. En disant la plaie ravette, toujours fait mettre yo en temps. Des wola yo pas pour moun, la jolle yo fait faire un nom. Yo pas fait jalousie si yo fait on y balan. J'ai de la yo envie fumer, mais yo pas ni craquant. Si yo pas ni soldat, yo que ça va en guet tapant. Ou vendre vous bas la loi pour yo péter aussi zet tapant. Laissez-moi expliquer ça gentiment. La jolle pas ni zami, la jolle pas ni sentiment. J'ai de la ça coule mes des mains, ça savent tourner au piment. Veillez où elle fait les traites et les walls à surveillant. Veillez où un couloir là toujours fessier à au grand. Mettre machine à aussi où yon de yé, yon d'ouvant. Parce que ça a pété à n'importe qui moment. Les bitins là pas caillou, pis pas fait autrement. La loi pas qu'à bao chance, la loi pas qu'à bao chance. A cause des macoumets et des petits balances. Papa les bitins, on pas fait pour moun confiance. Ou nous on pas nommé des meilleurs grand instance. La loi pas qu'à bao chance, la loi pas qu'à bao chance. Combien l'année après, yo sa ba on sentence. Toujours en garde à vue pour des faits de violence. A rien pas qu'à changer à part les apparences. Laissez-moi expliquer ou ça gentiment. La jolle pas ni zami, la jolle pas ni sentiment. Jolle là ça coule mes des mains, ça savent tourner au piment. Veillez où elle fait les traites et les walls à surveillant. Veillez où un couloir là toujours fessé à au grand. Mettre machine à aussi où yon de yé, yon d'ouvant. Parce que ça a pété à n'importe qui moment. Les bitins là pas caillou, pis pas fait autrement. Laissez-moi expliquer où ça gentiment. La jolle pas ni zami, la jolle pas ni sentiment. J'entends là ça coule mes des mains, ça savent tourner au piment. Veillez où elle fait les traites et les walls à surveillant. Veillez où un couloir là toujours fessé à au grand. Mettre machine à aussi où yon de yé, yon d'ouvant. Parce que ça a pété à n'importe qui moment. Les bitins là pas caillou, mais pas fait.
De retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Greg, tu voulais nous présenter le son.
Ouais, je voulais vous présenter le son. C'est un son de Mikey Dangla. Le son s'appelle Andy dans là, donc ça veut dire à l'intérieur. Et donc en fait, dans ce titre-là, il raconte un petit peu comment ça se passe en prison, et notamment dans les prisons en Guadeloupe. Puisque c'est un mec qui a été... donc c'est un des fondateurs d'une des bandes qu'il y a en Guadeloupe, là, notamment sur la ville de Sainte-Rose, donc il s'appelle la bande des Hyènes. Et donc ce mec sorti de prison déjà en 2012, et en 2013 il a été accusé d'avoir tiré sur des gendarmes. Et donc, pour faire très court, il a pris 7 ans de tôle. Il en a passé 3 à l'isolement. Donc lui, donc, quand il parle dans d'autres chansons, il appelle ça le QHS. Il rappelle bien que c'est un QHS. Et de sa 6e à sa 7e année d'emprisonnement, il les a fait au QMC, donc au quartier Maison Centrale de Valence. Et voilà, finalement, il a été acquitté. Et donc voilà. Et ça... Ça permet de faire un...
Ouais, ça te fait penser à quelqu'un.
Ouais, un relais sur... avec Fabrice Borromé, qui lui, donc, faisait partie de la bande de la section criminelle, donc qui est une autre bande de Guadeloupe qui, elle est à Pointe-à-Pitre, et qui donc, on en parle souvent ici, hein, puisque ça fait des années qu'il tourne, et on rappelle donc qu'il a été transféré là dernièrement, donc lui aussi était à Valence, jusqu'à pas très longtemps, et là il a été transféré depuis le 20 avril à Condé.
La prison, voilà, la plus pourrie de France.
Ouais, ouais. Donc et... beaucoup de force à lui.
Ah, grave. Et on a relu une lettre de lui il y a quasiment 2 semaines, je crois. Si mes souvenirs sont... Oui, parce que la semaine d'avant, c'était un enregistrement. Et on disait que pour une fois, on avait l'impression qu'il avait la pêche. Donc, quand on a appris cette nouvelle, ça fait chier.
Et donc, évidemment, comme il avait la pêche et qu'ils ont dû s'en apercevoir, ils l'ont vite changé de prison pour vite le faire déchanter. Et apparemment, ça se passe pas très, très bien. Donc, je n'ai pas l'adresse en tête de Condé sur TAT.
Faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on vous filera l'adresse. Il faut l'écrire. Il y a quelques années, on avait fait comme ça un gros raid de lettres et ça avait fait du bien.
Surtout qu'à Condé, ils nous connaissent un petit peu. Ce serait cool de lui écrire. Voilà. Je voulais rajouter encore un grand merci à Estrella, cette femme qui se bat tous les jours pour soutenir son mari incarcéré. Voilà, un grand big up à elle. Et plein de force pour sa petite famille.
Et puis à tous les proches de prisonniers longue peine. Alors là, pour continuer, on va mettre le son du rassemblement qui s'est passé à Meaux, qui remonte déjà à quelques temps, mais qui
donc suite c'était à la quoi suite,
c'était suite à la mort de Jim Oney à l'intérieur de la prison. À l'époque, on l'appelait comme ça. Entre temps, il y a eu des matons qui ont témoigné après les prisonniers.
Donc suite à la mort ou suite à l'assassinat en fait, c'est plus l'assassinat.
En tout cas, à des violences qu'ont entraîné la mort sans souci.
Oui, j'ai peut-être été un peu cru.
Il est mort entre les mains des matons sous les coups des matons, comme le disent les matons eux-mêmes. Et comme les prisonniers l'avaient dit avant.
Toujours croire les prisonniers.
Depuis, il y a eu les témoignages, donc ces témoignages-là qui sont sortis, et la procédure est en cours. Enfin, ils ont pu inhumer le corps aussi, et c'était une étape importante pour la famille et les proches. Donc il y a l'enregistrement de Coura que vous pourrez retrouver, donc il y a la sœur de Jim Oney, qui est dans les émissions précédentes, j'ai plus la date en tête. Et qui se battent à fond avec le réseau d'entraide qui a été monté par les gens proches de Vivolé. Et donc, force en tout cas à eux. Et donc, on va écouter le son de ce rassemblement.
Ouais. À tout de suite.
C'est un enregistrement. On est une émission de radio.
Je crois que c'était BFM et tout ça. Non. Pas les BFM et tout.
Non, c'est l'envolé.
Radio. C'est FM ou c'est sur internet ce
genre? Ouais, c'est FM. C'est des proches et des anciens prisonniers. Ouais. Puis un journal.
Voilà, parfait. Allez belle. Tous ceux qui sont sur le côté, s'il vous plaît, mettez-vous à l'arrière pour que ce soit une file super long. Je vous remercie. Dans un premier temps, la grande banderole, elle sera à l'arrière, et 5-10 mètres à l'avant, sera la banderole Jim Oney avec sa famille. Je vous remercie.
Là, vous m'entendez ou pas? Quand on va commencer la marche, si tout le monde pouvait mettre son masque correctement, de manière à ce qu'on ne soit pas dérangé, et qu'on fasse ça dans le plus grand calme possible, tu sais que ce ne sera pas facile.
On y va doucement. Élargir un maximum.
Dans un premier temps, je tenais à tous vous remercier. Ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment chaud au cœur de voir le monde qui s'est réuni aujourd'hui en sachant la météo, la pluie. Je vous remercie pour la force. Maintenant, je m'adresse au centre pénitentiaire, à tous les détenus, à tous les gardiens, au directeur de la prison. On veut un maximum de témoignages pour que la vérité éclate. Car aujourd'hui, nous sommes dans un système où il faut constamment se battre avec l'État pour avoir la vérité. Je ne comprends pas pourquoi il y a une injustice. La famille doit rentrer dans un combat avec l'État, le système, pour avoir la justice. Aujourd'hui, on veut que la justice se fasse. Mon cousin Dimoni est rentré en très bonne santé. Aujourd'hui, il est décédé alors qu'on l'a confié au centre pénitentiaire. Maintenant, je vais laisser la parole à sa famille pour qu'on fasse un deuil, car aujourd'hui, on n'est pas venu ici pour faire du bruit. On est parti voir tout à chacun pour les raisonner, car aujourd'hui, on est là pour une marche blanche, pour honorer sa mémoire, que Dieu l'accepte au paradis. Je vais laisser la parole à sa tante.
Bonjour, je remercie tous du fin fond du cœur pour votre venue, notre soutien. Et on est là pour faire justice à Dimoni. Dimoni, il est décédé le 2 février. Il est rentré en prison pour être puni, non pas pour être tué. Et on est là pour faire justice. Dimoni, c'était un mari, un fils, un petit-fils, un neveu, un frère. C'était tout pour nous. Et on est là pour combattre cette situation. La solidarité, elle est là. Il y a même Assa Traoré qui avait dit dans le passé que les Arabes et les Noirs étaient en danger dans ce pays. Et ils ont dit que c'était faux. On en a la preuve aujourd'hui que nous sommes tous en danger, surtout les Noirs et les Arabes. Et on veut stopper tout ça, surtout dans la prison, ce qui se passe actuellement dans les prisons. Donc on vous demande de faire justice. Si vous pouvez nous donner des preuves, parce qu'aujourd'hui c'est notre petit-fils, c'est notre frère, c'est notre fils, mais ça aurait pu être un des vôtres, des membres de la famille. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui dans cette prison, qui souffrent, et on ne dévoile rien. C'est la sécurité, elle n'est pas mise en place comme elle devait être faite en fait. Donc on vous demande de l'aide et du soutien et beaucoup de preuves s'il vous plaît. On fait appel à vous. Tout ce que vous pouvez nous donner, ben, on sera là à récolter et mettre ça en pratique. On vous remercie beaucoup.
Tout d'abord, je vous remercie également. Je suis la tante à Dimoni. On tient également à démentir parce qu'aujourd'hui, dans le 1245, il y a une vidéo de Dimoni qui a tourné où on le voit marcher à quatre pattes. Dans cette vidéo-là, ils disent qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Donc sachant qu'il n'y a pas d'autopsie encore qui a eu lieu, je ne sais pas avec quels faits avérés ils peuvent affirmer cette chose-là. Donc nous, on le démentit de manière affirmative, en fait, parce que ce n'est pas vrai du tout. Donc on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. On nous a dit qu'il a fait une crise cardiaque. Comment il a pu faire une crise cardiaque à l'âge de 28 ans? Pour quel motif il a fait une crise cardiaque? C'est ce qu'on veut savoir. On veut avoir accès au bilan médical, on veut avoir accès à son dossier, on veut avoir accès à tout. Maintenant, est-ce que je vois la justice, elle traîne encore également. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on aura la justice par la grâce de Dieu. Donc du coup, je vais donner le micro à sa petite sœur, Koura, qui va lancer un appel à témoins.
Bonjour à tous, alors je me présente, je m'appelle Koura Sissoko, je suis la sœur de Dimoni Rousseau qui est décédée du coup le 2 février 2021. Il est rentré, il est en bonne santé, pour vous dire, il faisait du sport, etc. Nous, ce qu'on nous a dit, c'était qu'il avait fait une crise cardiaque. J'y crois pas du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je décide de faire un appel à témoins pour avoir la justice et savoir ce qui s'est réellement passé. On nous dit qu'on a voulu procéder à sa fouille dans sa cellule et qu'ensuite il faisait plus de bruit. C'est complètement incohérent. Enfin, je vois pas pourquoi il aurait fait ça comme ça soudainement. On nous dit qu'il avait des comportements agressifs. Il avait fait une demande pour changer de cellule. On l'a refusé, c'était son droit et on l'a refusé. Du coup, lui, ce qu'il a fait, c'était manifester, ne pas rentrer dans sa cellule pour manifester le fait que son droit avait été refusé en fait. Et on l'a forcé, on l'a emmené de force dans sa cellule et c'est là-bas que ça s'est passé. Et en fait, du coup, il a été transporté à l'hôpital de Jossigny le 25 janvier 2021 et il en est plus ressorti. Il est décédé le 2 février. Donc aujourd'hui, je décide de lancer un appel à témoins, aux surveillants, aux directeurs, aux détenus de la prison, afin de savoir la vérité. Merci.
Justice pour Dimoni!
Justice pour Dimoni! Justice pour Dimoni! Justice pour Dimoni! Justice pour Dimoni! Justice pour Dimoni!
Justice pour Dimoni! Justice!
La prison, je m'adresse encore une fois à la prison, parce que tous les jours, quotidiennement, nous avons des violences en prison faites aux prisonniers. Aujourd'hui, grâce à vous tous, on a la chance de faire entendre leur voix. Donc s'il vous plaît, les détenus. Tous les détenus qui sont en prison, les gardiens. On sait très bien qu'il y a des gardiens qui veulent dire la vérité, mais qui subissent une pression. On vous demande, s'il vous plaît, la famille, ses proches, toutes les personnes réunies aujourd'hui, dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité. On demande à tous les détenus, si vous avez un parloir, rédigez une lettre et expliquez toutes les violences que vous avez reçues en prison. Toutes les violences.
Toutes les personnes qui sont passées par la prison aussi, vous avez le droit de laisser un message. Toutes ces personnes, que vous ayez connu des personnes, des frères, des amis, on veut des témoignages de tout le monde.
On veut un maximum de témoignages. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des violences en prison, qui aujourd'hui passent sous silence. Ils passent sous silence car la prison est un endroit où les infos ne passent pas, les infos ne circulent pas. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des prisonniers qui peuvent avoir la parole. Donc s'il vous plaît, faites passer un maximum de témoignages, que ce soit anonyme ou que ce soit avec votre nom ou votre prénom, on veut un maximum de témoignages. Car aujourd'hui, il faut que la violence en prison cesse. Justice pour Djimouni. Je vous remercie, Je pense que maintenant on peut tous rentrer chez nous. Mais en tout cas, la famille et tous les proches, on vous remercie du fond du cœur, d'être venus aujourd'hui. On vous remercie très chaleureusement. Merci beaucoup. Aux familles qui ont subi également des injustices. Ils sont venus aujourd'hui ici pour nous donner de la force.
Djimouni, c'était mon cousin, mais je ne connaissais pas. On m'a dit c'est mon neveu. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit on a un cousin qui est décédé. Donc nous, on est engagés. Donc comprenez que cet engagement-là, on s'est. Les gars, s'il vous plaît. Respectez la famille. Les gars. Vous n'êtes pas là pour ça. Respectez la famille. C'est un manque de respect pour Djimouni. Respectez la famille. Ça ne doit pas se passer comme ça. Respectez la famille. Faut pas faire ça, les gars. Ne leur donnez pas cette chance-là. Ils vont nous détruire. C'est ce qu'ils veulent. Ça s'est bien passé, c'est pas la peine, ça va dégénérer. Respectez la famille. Reculez. Ne leur donnez pas cette chance-là, respectez la famille, les gars. Vous avez fait la marche, ça s'est bien passé. C'est pas ici que vous allez passer. Respectez la famille. S'il vous plaît, pour Djimouni, marchez tranquillement, ne salissez pas sa mémoire.
Excusez-moi, à un moment donné, venons au respect, s'il vous plaît. S'il vous plaît, respectez la mémoire de Djimouni. On a perdu un neveu, un fils, un ami. C'est déjà assez difficile pour nous, pour que vous veniez casser à la porte comme ça. On cherche la justice, on est venu dans cette démarche de paix. Alors s'il vous plaît, calmez-vous. Maintenant, vous avez voulu tout casser, la marche elle est terminée, on rentre chez nous. Merci à vous.
Les gars, apaisez vos esprits, c'est super important dans des moments comme ça, de rester lucide.
On est là pour un message de paix, on n'est pas là pour la haine.
Je vais vous dire la vérité, ici en France, il n'y a pas vraiment de justice. Et la justice, on l'aura là-haut la justice, Inch'Allah. Donc ça sert à rien de s'énerver, soyez patient, Inch'Allah. La justice, elle arrive, elle est proche. Et voilà, même si vous faites ce que vous voulez, vous montez, vous descendez, ça ne va pas ramener Djimouni. Ça ne va pas le ramener. Et là, il est dans un état où, alhamdoulilah, on sait qu'il s'est fait taper et il est mort par ceci. Et alhamdoulilah, la justice d'Allah, elle est grande, elle est juste. Et il va le récompenser par le paradis. Donc vous inquiétez pas, inquiétez-vous pour vous, Inch'Allah. Et ça sert à rien, ça sert à rien de s'énerver. La colère, elle vient de Shaitan. Restez tranquille, puis voilà.
Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Camara Mahamadou. Je fais partie du collectif Vérité et Justice pour Gaï Camara. Mon petit frère a été tué dans la nuit du 16 au 17 janvier d'une balle dans la tête à Épinay-sur-Seine. Le combat aujourd'hui que la famille Djimouni, la famille Sissoko a décidé de mener, elle ne pourra pas le mener tout seul. Donc vous cherchez qu'aujourd'hui vous êtes tous déplacés pour Djimouni, bah le combat il va être très très long. Ce n'est pas un combat qui va durer un an ou deux ans, ça va être un combat qui va être très très long. Et il faudra soutenir la famille, il faudra être à leur côté pour les aider humainement et financièrement. Il faut le dire, humainement et financièrement, ils auront besoin de vous. Si vous avez demandé la justice pour Djimouni aujourd'hui, eh ben, il faudra soutenir la famille aussi. Il faudrait être à leur côté quand ils ne seront pas bien. Il faudrait les conseiller. Il faudrait aussi être aux côtés de la maman pour la conseiller, pour l'aider et pour la soutenir. Il est très important. Les soutiens, c'est la base. C'est la base d'un combat. S'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de combat. S'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de combat. Nous, dans notre combat, dans notre ville, moi, je suis originaire de Champs-sur-Marne. Djimouni, il habite à Lagny-sur-Marne. C'est la même, c'est la famille. Moi, quand j'ai appris ça, je n'ai pas dormi de la nuit. Parce que j'en ai marre d'enterrer mes frères. J'en ai marre d'aller de pleurer sur le défunt, on en a marre. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit s'organiser. Mais comment on va s'organiser? C'est en étant unis, ensemble, pour faire avancer les choses. C'est pas en étant dispersés. C'est en étant unis, main dans la main, pour faire avancer les choses. Nous, aujourd'hui, on se bat pour que nos enfants ne subissent pas les violences qu'on subit aujourd'hui. Faut que vous le sachiez. Pour nos petits frères et nos enfants. Donc, il est important qu'aujourd'hui, c'est bien, on est tous là. Mais demain, qui va être là aux côtés de la famille? C'est ça le plus important. Qui va être aux côtés de la famille demain? Après-demain, qui va les relever quand ils vont tomber? C'est ça le plus important. On est là, on n'est pas là pour casser. On ne leur donnera pas cette chance-là. Il ne faut même pas tomber dans le piège de leur donner ce fouet pour qu'ils nous fêtent encore une deuxième fois. Ils nous ont assez fouettés comme ça. On a assez enterré nos frères. Et donc, on doit se donner la main et s'organiser. Et le message que j'ai à faire passer, moi, à tous les jeunes des quartiers populaires, sachez-le que vous n'êtes pas condamnés à l'échec. On n'est pas condamné à l'échec. Notre vie ne doit pas finir en prison et ni dans une tombe. On n'est pas allé pour finir comme ça. Mais il faut l'accepter, c'est le destin. Le destin, personne ne peut l'éviter. Si tu dois mourir en prison, tu vas mourir en prison. Si tu dois mourir tué comme Gaï ou Adama Traoré ou Lamine Dieng ou tous nos frères, bah oui, comme Ibo, bah oui, tu vas mourir comme ça. Mais on doit s'organiser. C'est fini ça de faire les zoulous dans le quartier là. C'est pas ça les vrais bonhommes. Les vrais bonhommes, c'est les personnes qui vont soutenir leur famille. Les vrais bonhommes, c'est les personnes qui vont soutenir leurs parents. Les vrais bonhommes, c'est les personnes qui vont rendre fiers leurs parents. Moi, je vous le dis, j'ai fait des erreurs dans ma vie. J'ai 36 ans. Mais aujourd'hui, le message que j'ai à faire passer aux jeunes, c'est de dire, ne pas tomber dans le piège où nous est tombé. J'ai pas fait de la prison, Dieu merci, mais j'ai fait des erreurs. Et mon petit frère, lui, c'était quelqu'un qui n'avait pas de problème avec la justice. Malheureusement, c'est lui qui a payé le prix cher, il l'a payé de sa vie. Et aujourd'hui, on a tous un message à faire passer aux jeunes de nos quartiers. Parce que personne ne viendra changer les choses à notre place. On a trop attendu après les hommes politiques. Ils viennent dans nos quartiers, ils viennent vous raconter des salades, ils vont vous dire oui, votez pour nous et demain quand ils sont plus là, c'est fini. Une fois qu'ils sont passés, ils n'ont rien à foutre de nous. Donc on doit s'organiser entre nous pour faire avancer les choses. Mais la famille Sissoko, sachez-le que nous on est là avec vous et on ne vous lâchera pas. Et Inch'Allah qu'on mènera le combat jusqu'au bout, c'est le combat d'une vie.
Bonjour, je m'appelle Fatou Dieng. Mon frère Lamine Dieng avait 25 ans quand il a été tué le 13 janvier 2007. Donc pareil, on a dû se battre aussi, on a dû démontrer que la police avait menti surtout. Il n'y a qu'en juin 2020 que la Cour européenne des droits de l'homme, donc 13 ans après, a pu reconnaître sa culpabilité et sa responsabilité dans le meurtre de Lamine. Donc c'est vraiment éprouvant que les familles soient obligées de se battre pour obtenir justice et d'aller jusqu'à des non-lieux, et jusqu'à la Cour de cassation, et jusqu'à la Cour européenne. Tout ça, c'est pas normal. On parle de violences policières, mais on oublie souvent les violences pénitentiaires. Ces morts suspectes, qui sont maquillées, déguisées, en crise cardiaque ou en suicide. Parce qu'à partir du moment où une personne est incarcérée, on la laisse tomber, on pense qu'elle mérite ce qui lui arrive. Non, parce que ces personnes-là sont justement incarcérées et sont sous la responsabilité des établissements pénitentiaires. Donc c'est à eux de pouvoir les protéger aussi. Et comme Mamad l'a dit tout à l'heure, effectivement, les soutiens sont là derrière les familles. C'est aux familles de prendre les décisions en fonction de ce qu'elles peuvent assumer. Les personnes qui sont là doivent les soutenir financièrement, parce que les frais d'avocat, c'est très cher. C'est un combat long. Donc ce qui veut dire que financièrement, c'est très difficile aussi. Donc il faut les soutenir financièrement, les soutenir quand elles sont là dans la rue pour dénoncer justement ces violences et ces meurtres. Parce que lorsque les soutiens ne sont pas là, les familles se retrouvent seules. C'est elles qui doivent subvenir à tout. Donc le fait de se retrouver devant cette prison, apparemment, ça fait très longtemps que ça ne s'est pas produit. Et c'est vraiment très bien qu'il y ait autant de monde de mobiliser et de participer à des rassemblements et de casser ou autre. Ça ne fait que donner de l'impact sur la famille, justement. Parce que les répressions, c'est la famille qui les subit. La douleur, c'est la famille qui les subit aussi. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un jeune qui est tué, un père, un fils, que ce soit dans les violences policières ou les violences pénitentiaires, c'est la famille qui est détruite. Toutes les familles subissent la même chose. On se fait tuer et c'est à nous d'aller chercher aussi les outils pour justement continuer à se battre et continuer à survivre aussi. Vous êtes là aujourd'hui, continuez à rester là auprès de la famille. Elle a besoin de vous. Merci beaucoup. Et force à toutes les familles. Force à vous et courage à vous.
Bonjour tout le monde. Moi je m'appelle Zéné. Je suis là aussi en soutien pour la famille Djimouni. Ils ont beaucoup de courage d'être là parce que ce fut un temps dans ce pays quand les gens ici de nos communautés ils subissaient des drames avec des personnes de l'État qui sont mises en cause. Ils admettaient ça et ils disaient que c'était rien, c'était le destin et qu'on devait accepter parce qu'on n'était pas chez nous. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Nous, on a les mêmes droits, exactement les mêmes droits que ceux qui disent qu'on n'est pas chez nous ici. Donc c'est avec beaucoup de tristesse que je suis là aujourd'hui par rapport à la mort de Djimouni. Et puis je suis ici d'une ville, je suis de Sarcelles. Et en fait à Sarcelles il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont rentrés en prison, qui ne sont jamais sortis. Mais sauf que dans mon époque, nous on ne faisait pas comme ce que le courage que la famille est là aujourd'hui, de venir devant cette prison et de dénoncer. Nous à l'époque, les gens ils meuraient en prison, bah, on acceptait, on disait rien. Et aujourd'hui encore, à l'instant où je vous parle, j'ai encore ce souvenir d'un jeune avec qui j'ai grandi, il s'appelait Fervent. Il est parti en prison, un innocent, il ne veut même pas aller en prison. Il n'en est jamais sorti. Et en fait, la famille elle a porté plainte et il n'y a jamais rien eu parce que bah, l'État n'avait pas l'habitude que les familles elles fassent comme aujourd'hui le courage que la famille de Djimouni est là. Moi, je suis là en train de vous parler parce que mon petit frère, Ibo, 22 ans, il s'est fait tuer le 6 octobre 2019 à Villers-Belle par la police. Mais le paradoxe dans ce fait, du 6 octobre 2019, c'est que les faits ils ont été filmés. Il y avait 3 caméras qui ont filmé les violences policières qui ont entraîné la mort de mon petit frère, Ibo. Et c'était en 2019. Aujourd'hui, on est à un an et demi, on nous refuse toujours les vidéos. Je ne sais pas s'il y a quelques jours, vous avez vu la vidéo, c'est ce jeune Yuri qui s'est fait... voilà, donc les vidéos, elles passent partout quand c'est pour les autres personnes qui sont mises en cause. Mais dès que c'est les policiers qui commettent des méfaits, eh ben, on nous divulgue les éléments qui peuvent déterminer leur culpabilité. Il faut savoir aussi quand les violences policières, elles ont action, eh ben, ce sont les policiers qui vont enquêter sur les policiers pour déterminer la vérité. Aujourd'hui, c'est ce qui va se passer dans l'affaire de Djimouni. Ça va être des surveillants qui vont enquêter pour savoir si les surveillants sont réellement coupables. C'est pour vous dire, en fait, c'est un nœud, c'est un piège. Ça va être difficile d'avoir justice, mais il faut le faire parce que c'est pour les enfants. Nous, peut-être qu'on ne va pas en bénéficier parce que c'est un combat qui va être long. Et ceux qui en bénéficieront, ce sont nos enfants. Et la victoire, c'est ça. La victoire, ce n'est pas juridique. La victoire, c'est ça. La conscientisation de nos lieux de vie, la conscientisation de nos enfants, de la jeunesse, pour leur expliquer qu'il n'y a rien qui se fait de manière anodine, il n'y a rien qui fait par l'État pour nous. Nous devons faire les choses aujourd'hui. Qui est là aujourd'hui pour dénoncer ce que Djimouni a subi? Ce sont ses amis, sa famille. Ils sont où les personnes qui sont censées être là, qui représentent Djimouni, qui représentent les communautés qui vivent ici à Meaux ou à Lagny? Il n'y a que ses amis. Donc voilà, c'est ça qu'il faut que vous preniez conscience. Le combat, la vérité, la justice, elle se fait par nous-mêmes, par les familles. La famille, elle pourra se battre seulement si ses amis sont là. Tous les jours, vous allez voir la famille, vous allez voir les frères. Vous allez contribuer, comme on vous l'a, expliqué. Il faut des aides pour l'avocat. Il faut être là humainement et leur dire que vous les aimez. Et continuez à vous battre. Merci beaucoup. Merci.
Alors bonjour à tous, moi je suis la sœur d'Amine Bentounsi qui il y a quelques années était aussi incarcérée à la maison d'arrêt de Meaux et je me souviens qu'il avait été aussi tabassé à ce moment-là. Et aujourd'hui, il est temps qu'on n'accepte plus l'inacceptable parce que, et c'est tous les jours, en plus de subir cette violence quand on nous annonce la mort de notre frère, on subit cette injustice à savoir que quasiment dans la majorité des cas, les policiers ne sont pas mis en examen, il n'y a pas de poursuite. Il faut réagir maintenant. La genèse de l'histoire, c'est qu'on a laissé faire. À nous d'être solidaires entre nous et essayons d'être solidaires, qu'on soit d'un quartier ou un autre. Mais en tous les cas, essayez d'être ensemble, derrière la famille, les soutenir. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de votre force. Et à chaque fois qu'un homme mourra entre les mains de la police, soyez capable de vous indigner, qu'il soit proche ou pas proche. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous. Demain, ça peut être vous. Voilà, merci.
Juste pour vous dire, faut que vous sachiez que simplement faire une manifestation ici, c'est assez exceptionnel. Et ça se passe pas tous les jours. Et c'est énorme. Moi, pour vous dire, je m'appelle Mara. J'habite à Sarcelles et à Villebel, Ibo, c'était un ami, on a fait de la moto ensemble, une semaine après il est décédé. J'ai déjà fait de la prison, j'en ai fait trois, j'en ai passé un, j'ai passé un an en isolement, et je sais ce que c'est qu'est d'être de l'autre côté. Et être de l'autre côté, c'est la loi de l'omerta. Donc quand ils envoient les iris, ce qui est arrivé à Djimouni, on n'a pas vu, mais on sait, parce qu'on a vu ce qui se passe de l'autre côté. On a vécu en prison, on a vu ce que c'était qu'être au mitard, on a vu ce que c'était qu'être en promenade, on a vu ce que c'était être dans une cour d'assises, on sait comment ils procèdent, on sait comment ils fonctionnent, on sait comment ils nous mettent des peines. Donc chacun d'entre vous, aujourd'hui vous êtes là, et comme ils l'ont dit, le combat, c'est demain, c'est après-demain, c'est dans un an, cinq ans, et voire même dix ans. Je le dis parce que c'est une réalité. Chaque semaine, il y a un Français qui meurt sous les coups d'un policier. Chaque semaine, il y a un détenu certainement qui meurt sous les coups d'un surveillant ou de l'administration pénitentiaire. Faites attention! Prenez conscience de qui vous êtes et de là où vous êtes. Vous êtes des Noirs, des Arabes. Pour eux, vous êtes considérés comme des sous-hommes. Je vous le dis, vous êtes musulmans, chrétiens, chinois, peu importe d'où vous venez, peu importe votre ethnie, peu importe votre religion. À partir du moment où vous êtes dans une classe sociale qui est inférieure à la leur, vous êtes une cible. À partir du moment où vous êtes une classe sociale qui n'est pas la leur, vous êtes une cible. Vous êtes une jeune Noire, vous portez le voile. Vous êtes une jeune maghrébine, vous portez le voile, vous êtes une cible. À un moment donné, quand on parle avec les tripes. Quand on prend le micro, on prend le micro avec les tripes. Je ne vais pas déballer ma vie ici. Chacun d'entre nous, on a tous vécu des choses plus ou moins dures dans la vie. Notre mission aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la mémoire de Djimouni soit mise en valeur. C'est de faire en sorte que les circonstances dont Djimouni est parti, elles soient éclairées. Que la justice réponde des faits. Que l'administration pénitentiaire réponde des faits. Que les surveillants, les iris, soient questionnés. Nous, tout ce qu'on demande, c'est la justice. Parce que quand il se passe ce genre de choses, on demande aux gens qui sont victimes qu'ils soient cool, qu'ils soient posés, qu'ils soient réfléchis et attentifs. Mais à un moment donné, être cool, ça va deux minutes. Prendre des balles dans le dos, ça va deux minutes. Se faire percuter par la police, ça va deux minutes. Se faire incarcérer gratuitement, ça va deux minutes. Il est temps de prendre conscience. Nos parents ne sont pas venus ici pour subir ce qu'ils subissent. Donc prenez juste conscience de là où vous êtes et de qui vous êtes. C'est super important. Donc force à tous, mobilisez-vous. Nous on est là, on sera toujours là auprès des familles. Mais faites le nécessaire. Parce que la réalité c'est l'organisation qui va primer. Mais la famille a Djimouni. Soyez conscients qu'il y a un maximum de monde derrière vous. Merci à vous.
En fait c'était pour dire un truc en fait à tout le monde ici, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est réunis, mais il y a deux villes en fait que Djimouni il a bien côtoyé, c'est Lagny et Torigny. Et il faut savoir que chez nous il est apprécié, Et là-bas aussi, il est apprécié. Et il a toujours œuvré pour séparer les bagarres entre nous. Et j'ai mon frère Lassana, aussi c'est un ami à lui très proche. Et lui, c'est, on va dire, le symbole de la réconciliation entre Lamy et Torini, entre les bagarres.
Jimmy, là, il a toujours tout fait pour arrêter tout ça. Toujours il est venu, toujours la bonne parole, il vient nous parler à vos petits, je vais parler aux petits. Ça veut dire juste pour l'honneur de Jimmy, si on peut cesser toutes ces histoires. Regardez là, on est tous réunis, Lamy, Torini, même des villes qui sont, je ne sais même pas d'où les gens ils viennent. On est tous ensemble. Si tout ça, ça peut cesser pour Jimmy, ce sera un bel hommage pour lui. Ça ne sert à rien du tout ça. Ça sert à rien de se battre entre nous. À la base, on est tous réunis, on s'aime tout, je pense. Personne n'a des rancœurs contre personne. C'est-à-dire pour Jimmy, il faut cesser tout ça. On prie tous dans les mêmes mosquées. Les gens, ils sont à l'école ensemble. Ils travaillent ensemble. Il faut cesser tout ça. Pour un monde tranquille, on vit tranquille. Et Inch'Allah, ça va bien se passer pour tout le monde, Inch'Allah.
Bravo. Du coup, là, je vais donner la parole à une dernière personne qui a connu Djibouti, qui l'a connu depuis tout petit, et je vais donner un dernier message d'amour.
Bonjour tout le monde. Le mal qu'on se donne des fois devient haine. Pourtant, derrière, il y a haine. Pourquoi ? Après haine surgit avec haine. Alors je pense, c'est dans ma pensée d'éternité, d'hier, d'aujourd'hui et pour toujours. On se rappellera aussi éternellement d'un manque qui ne peut être compté. Quand on parlait d'amour, on parle d'amour, de ce qu'on voulait et veut, parce que l'homme et la bête ont le même sort. Jimmy veut mieux dans le cœur. Demandez à Dieu. Il y a des âmes, amour, qui crient « Ah !» Venez chez moi, le bienvenu, c'est ma maison. Où sont des mondes dans un monde, avec un goût de paradis, voulant faire de mine dans un cœur vide. Voici un manque d'amour, tandis qu'il fait noir, mais la lumière est partout. Explorez le monde. C'est là-dessus où je rêve, dans l'univers d'un autre monde. Où le bon Dieu nous bénit tous. On est un est égal un. Un est égal amour. Pour Jimmy. Merci.
On reprend tout à zéro, le malheur des uns fait des heureux. Dans le noir je ne vois que les euros. Elle fait la désirée, je la soulèverai pas. C'est décidé qu'elle arrête de se faire des idées. Je ne peux pas hésiter, car même si je deviens le plus fort, la mort je ne pourrais pas éviter. Mon sac je dois vider, car au bal masqué de la mort, le chétan essaye de m'inviter. Je déclare la guerre à tous ceux qui s'opposent. Au fait qu'un jour je serai numéro 1. Je dois niquer le game avant sa ménopause. Venir avec tout car je suis parti de rien. J'espère trouver ma voie, retrouver la foi. Faire honneur aux besoins auxquels je dois pourvoir. J'ai choisi la haine par amour du pouvoir. J'ai fermé les yeux mais j'arrive à vous voir. Bien sapé, je vais trop vite même à l'arrêt. Roi David dans la ville, la street des marraines. Mode furtif et toujours la diff dans l'arène. Je commence à pied pour finir en McLaren. Toujours dans les bons coups comme le con Dracula. Mauvais, j'y possède un peu trop d'aisance. Le savoir est une arme. La concurrence a perdu connaissance. Combien d'entre nous dans la street ont dû faire certaines choses pour le bif et ça quitte à faire pleurer nos mères. Hein? On s'est dû perdre dans le ghetto si vite poursuivi par nos vices parce que force et honneur fait vaciller nos nerfs. Parce que dans nos têtes c'est le chaos. On a souvent refusé de se ranger. Parce que dans nos têtes c'est le chaos. On a vendu la mort. Parce que dans nos têtes c'est le chaos. Parce que dans nos têtes c'est le chaos. On a manqué de respect aux forces de l'ordre. Parce que dans nos têtes c'est le chaos. On a traîné dehors. La douleur je ne sens pas. Vu que dans la street j'ai souvent fait les 100 pas. A chaque fois mon cœur s'emballe dans le trafic. Donc souvent j'arrive en balle. Pour avoir l'air de billets 100 balles. On a vendu là vu que tout se passe en bas. Fais Belek. Le métal pourrait te faire danser la samba. On voulait la vie de rêve, donc on a refourgué les bonnes doses. Complètement rabattu, Jack Dad en majestuel, je me prends pour Pop Smoke. Instabler le mental, dans tous les coins de rue c'est la guerre. Et en vrai, c'était la folie, toutes les folles étaient affolées. Donc à l'aperçu d'un filon, on a filé dans la foulée. On n'était pas des voleurs, mais on a fini par voler. Dans le sang de s'envoler, peut-être parce qu'on s'en voulait de n'avoir pas su avouer. Qu'à faire mal, on était voué. On n'est pas là pour jouer comme le faisait tout CA. Bref, à suivre.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. C'est la mission la plus dure que j'ai pu faire depuis que je suis à l'émission L'Envolée.
Qu'est-ce qu'on parle, hein, plus de salive.
Il y a de la réflexion profonde là. Et tout.
Beaucoup d'analyse. Bah, du coup, on vient de vous jouer KO, le morceau KO de Frénétique.
Et pour nous joindre,
pour nous joindre, sortons
l'anti-sèche. C'est toujours sur les réseaux sociaux, 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris, et 07 52 44 29 5.
Truc dans le genre.
C'est deux tests.
07 52 40 22 48.
Franchement, pas loin quand même.
Pas tout près non plus.
De toute façon, il suffit qu'il y ait qu'un chiffre, hein, ça ne changerait pas grand-chose. Bon, voilà. Donc, alors là, on a écouté. Donc, on vous a donné un peu les nouvelles de Jimoni et tout ça. On va essayer d'avoir Koura prochainement à l'antenne pour qu'elle nous raconte un peu tout ça. Là, on va passer à ce qui se passe au Ménil. C'est assez important parce qu'en fait, au Ménil, c'est l'endroit où est-ce qu'ils placent pas mal de prisonniers de centres de rétention.
C'est là où ils placent des gens qui sont libérables et qui sont attendus par un fourgon et qui sont ramenés en centre de rétention comme une deuxième peine. D'ailleurs, c'est une deuxième peine. Et en attente de savoir s'ils sont expulsés ou s'ils peuvent rester sur le territoire français au vu de la condamnation qu'ils ont eue avant d'être enfermés dans
Le crat du Ménilamlo, c'est celui qui est à côté de l'aéroport Charles de Gaulle.
Donc ça,
qui beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
C'est là où il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses très graves, où il y a beaucoup de gens qui sont contaminés actuellement.
Et là, donc, c'est un témoignage de quelqu'un qui a vécu ça, là, qui était à Metz au départ, qui a été envoyé, qui a refusé le vol, et qui se retrouve au Ménilamlo comme deuxième peine. Il y a eu des décisions importantes des tribunaux c'est cette semaine-là, de la part de la cour d'appel de Douai, si mes souvenirs sont bons, et de celle de Rennes aussi, viennent de dire que refuser un test PCR ne pouvait pas être considéré comme une interdiction, enfin un geste empêchant d'être renvoyé. Parce que ils ont fait une loi il y a quelques temps qui est une loi abjecte qui dit que si tu t'opposes à ton renvoi, tu peux être condamné à de la tôle. On l'a décrit, on n'a pas arrêté de le décrire dans cette émission. On a eu plein de témoignages de personnes qui ont fait ces allers-retours, cra prison. Pour cette raison-là en particulier, pour la première fois. Il y a ces décisions de justice, donc il y a encore des gens qui sont en prison à cause de ça, donc pour eux ça va pas s'appliquer, mais en tout cas là c'est des décisions qui sont hyper importantes et il va y avoir cette jurisprudence qui doit commencer à s'appliquer parce que là ça fait deux cours d'appel, donc en fait les autres cours d'appel vont être obligés de suivre. Et donc c'est quand même une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que les gens, de toute façon on sait qu'ils vont trouver d'autres techniques, mais en tout cas voilà, donc à l'intérieur si vous nous entendez maintenant de refuser un test PCR, alors là jurisprudence n'a pas encore changé à la cour d'appel de Paris. Mais en tout cas, il faut se battre là-dessus. Et donc, c'est Douai et Rennes. Demandez à vos avocats de faire le taf à ce niveau-là. C'est hyper important.
Puis, il n'est pas légal d'obliger les gens de faire ce test. Et d'une part, ce n'est pas un voyage... c'est pas comme si tu partais en vacances et que tu...
Non, c'est ça, mais après, voilà. le problème pour l'État français, c'est que les États leur demandent un test PCR pour pouvoir revenir. Et voilà, donc là, en vrai, c'est un vrai coup de frein à la politique de reconduite à la frontière. On va mettre donc ce témoignage de cette personne qui est encore enfermée au Ménil, puis on se retrouve à la fin pour les coucous.
Yes, okay. Du coup, est-ce que tu veux raconter, toi, combien de temps ça fait que t'es au CRA, t'es dans quel bâtiment t'es, et puis comment ça se passe un peu de ton côté?
Moi, écoute, je te vois pas, avant j'étais au CRA de Metz, à Metz, je sais pas si tu connais.
Ouais.
J'étais au CRA là-bas, ils m'ont ramené un test, je l'ai fait, un vol, ils m'ont ramené jusqu'à l'aéroport, et ensuite le vol, je l'ai refusé.
Ok.
Tu vois, j'ai refusé le vol, donc ça fait, du coup, ils m'ont ramené au CRA du Ménilamlo.
Ok. Tu vois? Ouais.
Donc là, ça fait j'ai déjà fini mes premiers 90 jours. Tu vois?
Yes.
Quand j'ai fini mes premiers 90 jours, à la fin, ils m'ont ramené en garde à vue parce que j'avais refusé des tests PCR. Tu Mm-hmm. Donc, du coup, bon, j'ai fait 24 heures de garde à vue. Après, j'ai été déféré au parquet. Tu vois. Okay. Et bon, je suis passé sans avocat, j'avais pas d'avocat. Donc, du coup, ils m'ont mis 3 ans d'interdiction en plus et 3 mois en plus de retour au CRA.
Ah ouais, donc 3 ans d'interdiction du territoire français, c'est ça?
En plus, c'est ouais. Ça.
Ok.
Bon, après, je ne mens pas, je suis revenu là. Bon, c'est un peu... Je ne peux pas faire de recours administratif parce que en gros, mon interdiction, c'est un truc pénal. C'est un truc avec la justice. Ouais. C'est ça qu'elle m'a dit, la CIPAD. Tu vois? Bon, alors que ceux qui ont juste une interdiction, que ce n'est pas pénal, ils peuvent faire des recours. Mais nous, quand on sort de prison, par exemple, on ne peut pas faire de recours comme ça. Tu vois, on n'a pas accès à ça. Mm. Donc, du coup, bon, je suis bloqué, il faut que je repasse encore mes 3 mois à fond. Tu vois? Mais ici, je ne te vends pas les mesures sanitaires. Aucune mesure sanitaire qui est respectée. Mm. Tu vois? Personne, il a des masques. Le seul moment où il nous donne des masques, c'est quand. C'est quand on part en rendez-vous avec la CIMAD, tout ça. On part à la fouille, on part au greffe. Mais sinon, entre nous, il n'y a personne qui a des masques. Tu vois? Ça veut dire que si demain, il y en a un qui a le Covid, ben, tout le monde il a en deux. Et rapidement. Donc, voilà, ce qu'ils disent, milieu sanitaire, franchement, c'est vraiment pas respecté, tu vois. Mais je te mens pas. Il y aura un téléphone internet, je te montrerai. Tu serais choqué, mais bon. Comme on n'a pas le droit, on n'a pas accès au téléphone internet ici. Donc, pour ça, bon. C'est bien ton truc, là, au moins, que les gens ils puissent entendre.
Ouais, carrément.
Comment ça se passe ici. Tu vois. Bon, c'est intéressant, quoi. Si tu as d'autres questions à me poser, je te réponds.
Ouais, et sur le. Tu parlais un peu des mesures sanitaires. Là, est-ce qu'il y a eu des bâtiments confinés? Je crois qu'au Ménilamlot, parfois, ils font ça. Quand il y a un cas, ils confinent le bâtiment.
C'est ça. Comme ils font, quand il y a un cas, ils confinent le bâtiment entier. Une semaine. Pendant une semaine, ça veut dire que les visites, elles sont supprimées. Mais bon, les gens qui sont à l'intérieur du bâtiment, ils n'ont pas de masque. Comme tu dis, ils mettent le masque juste pour aller à leur rendez-vous. Soit à la fouille, soit à la cimade, soit au greffe, voilà, c'est comme ça, tu vois.
Ouais.
Moi, par exemple, je suis une coiffeur d'ici, moi, tu peux, c'est moi, je pense que tous les gens du centre ici.
Ok.
Tu vois. Donc, ça veut dire tous les jours, je touche des têtes, tous les jours, aucune mesure, tu vois, il y a juste le masque. Et même quand je coiffe, il n'y a pas de masque, tu vois. Donc, ça veut dire que si demain je dois attraper, je vais attraper, tu vois.
Ouais.
Et si t'es suspect Covid, ils te mettent à l'isolement, le temps de voir le résultat de ton test. Tu peux être à l'isolement 24 heures. Bon, si t'es négatif, bon, tu retournes au bâtiment. Et si t'es positif, après, ça, je sais pas comment ça se passe. Parce que quand t'es positif, ils travaillent dans un centre de rétention, mais hospitalier.
Ah ouais,
okay. Adapté. Ça veut dire, bon, si t'es positif, ça veut dire que t'as eu le temps de contaminer plein de personnes.
Bah ouais, carrément. Ouais. Et en plus, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent de faire un test parce que après ils utilisent les tests pour renvoyer les gens, non?
C'est ça. Bon, il y en a plein qui refusent les tests. Après, moi, je te vois pas. Il y a des situations comme des gens qui sont là depuis l'âge de 3 ans, depuis l'âge de 9 ans. Moi, par exemple, je suis là depuis l'âge de 9 ans. Donc, aujourd'hui, j'ai 27 ans. Ça veut dire que ça fait 18 ans que je suis en France. Bon, j'ai toute ma famille qui est ici, j'ai toute ma famille là-bas.
Oui.
J'ai mon père, bon, j'ai même la famille en Allemagne. Tu vois, donc, toute ma famille est ici, tu vois. Donc, c'est vrai que j'ai fait des conneries quand j'étais plus jeune, tu vois, mais bon, comme on dit. On ne peut pas tout savoir qu'on est jeune, enfin, on fait tous des erreurs, tu vois. Je ne sais pas payer pour ces erreurs-là d'enfance, tu vois. C'est pas, j'ai pas violé quelqu'un, j'ai pas tué quelqu'un. Encore quelqu'un qui a tué quelqu'un ou un violeur. Oui, je comprends. Mais si c'est une position un peu vol, tu vois, c'est pas grave, c'est pas juste. En plus, ici, j'ai une petite fille, tu vois. Bon, non, je ne vais pas partir, en fait.
Ouais.
Donc, c'est logique. Donc, ils sont là, ils t'obligent à partir. Si tu veux pas partir, ils te mettent en prison. Ou ils te répètent encore 3 ans d'interdiction. Bon, c'est pas. C'est pas normal. Encore, j'aurais violé ou j'aurais tué quelqu'un. J'aurais aucun repère en France. Ou j'aurais eu des repères de mon pays d'origine qui me renvoient. Ouais, c'est normal. Parce que bon, j'ai encore de la famille là-bas, tu vois. Je serais pas tout seul. Mais là, j'ai personne là-bas.
Yes.
Donc, comment je fais alors? Je suis bloqué là. Mais bien sûr, je refuse mon test. C'est normal. Et des gens comme moi, je suis pas le seul. Quoi. Et ils s'en foutent, tu vois. Et ils veulent juste appliquer leur procédure. C'est comme ça.
Et là, il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait leurs premiers 90 jours et qui sont encore en CRA, au CRA du Ménil.
C'est ça. Bon, là, ici, il en reste encore combien? Il y en a 3, il y en a encore 3 autres. Voilà, il y en a encore 3 autres dans le CRA 2. Il y en a encore 3 autres. Ils ont fait leurs premiers 90 jours, là, ils sont en train de faire encore des 90 jours. C'est toujours la même procédure. À chaque fois, ils ramènent des tests. Ils veulent détruire la vie des gens, en fait, tu vois. Mm. Je veux dire, même t'as des enfants ici, t'as un vécu là, ils veulent pas te laisser une seconde chance. C'est fini. Mm. Ils te remettent carrément en prison. Comme si c'était un délit de refuser des tests. Ils te remettent en prison. Ah, c'est comme ça.
Ouais, c'est abusé.
Donc, c'est abusé, ouais.
Et là, dans le CRA, toi, tu sais combien il y a de bâtiments qui sont confinés, par exemple, actuellement ?
Là, actuellement, il n'y a aucun bâtiment qui est confiné.
Ok.
Voilà. Là, actuellement, il n'y a aucun bâtiment confiné. Mais des fois même, il y a des filles qui ont le corona. Parce que moi, je me rappelle qu'une fois, j'étais déjà au parquet pour la prolongation, ma première prolongation de 28 jours. Et pendant que j'étais dans le CRA avec eux, et moi, la plupart des policiers, si je connais leur prénom, tu vois. Ils ont parlé d'un policier qui s'appelle Gaspard, et moi, le City. Il a dit, Gaspard, il a le corona, mais il faut travailler. Donc, ça veut dire que eux, ils ont le corona, mais ils font travailler. Après, quand ils se répandent ici, c'est nous qui confinent. En fait, c'est nous, on prend pour eux, en fait.
Ouais.
Tu vois. Ils disent pas la vérité. Heureusement, quand la France a entendu, ils disent, ouais, Gaspard, il a le corona, tout ça, mais ils font travailler, tout ça. Et ouais. Moi, je vois très bien, c'est qui Gaspard. Parce que j'ai pas longtemps que je suis ici, la plupart des policiers, je connais leur nom.
Ouais, c'est abusé.
Et la parade, pas moi, voilà. Donc en gros, si tu sais pas, tu la mets bien en l'air, quoi.
Et j'avais encore une question, parce que nous, il y a des gens qui nous ont raconté qu'à cause aussi du Covid, là, parfois, les rendez-vous au tribunal, ils étaient supprimés. Soit le tribunal, il était supprimé, soit c'était fait en visio. Est-ce que toi, t'as pu voir ça ?
C'est ça. En fait, c'est comme si c'était une faute, ça veut dire. Si par exemple le bâtiment est confiné et que tu n'as pas ce tribunal, et ben tu passes à défaut. Ça veut dire que tu passes et ils te jugent sans que tu sois là. Ça veut dire même si tu t'aurais voulu ramener ton avocat pour ce jour-là, et ben tu peux pas, ils vont décider à ta place comme ça. Ça se passe, ça, c'est pas comme ça.
Ah ouais, donc t'as même pas de visio, c'est juste t'es pas là.
Non, même pas en visio, toi tu restes dans le bâtiment, tu restes là, ils font leur démarche là-bas. Sur toi, une fois que c'est fini, t'as pas le greffe, tu dis bon, t'as 28 jours en plus ou t'as 3 jours en plus. Voilà. C'est-à-dire, même si t'as un avocat privé, ben, ce jour-là, tu pourras même pas faire valoir tes droits, quoi. C'est abusé, c'est complètement abusé, je vous dis, ils font ce qu'ils veulent de nous. Tu vois, les étrangers, en tout cas ici, en France, bon, je sais pas comment c'est pas dans d'autres pays, mais en tout cas, moi, c'est la première fois que je suis en centre de rétention et j'ai bien vu.
Est-ce que tu sais pourquoi au début tu étais à Metz et ensuite ils t'ont transféré au Ménilamlo? Pourquoi ils n'ont pas refait les 90 jours à Metz?
Parce qu'ils m'ont ramené à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, vu que j'ai refusé le vol.
Ah d'accord.
Et du coup, ils m'ont mis là en fait.
Ouais, ok. Oui, voilà. C'était plus près quoi. Ok.
C'est ça.
Ça marche. C'est et ça. Peut-être, j'avais peut-être une dernière question où du coup, il y a quelques semaines, il y avait pas mal de grèves de la faim, plutôt dans le CRA 3, je crois. Et des choses comme ça, des personnes qui essaient de s'organiser aussi pour faire pression sur l'administration du centre et obtenir des meilleures conditions quoi, et puis aussi juste dire que c'est pas normal que les gens soient enfermés. Et je sais pas si en ce moment il y a des choses comme ça qui se passent dans le CRA ou pas vraiment.
Bon, là dans mon CRA il y a pas de grève, il y a aucune grève, tu vois. Mais dans le CRA là-bas, oui. Oui, des fois, il y a des grèves, et bon, les flics, ils s'en foutent un peu, tu vois. Ils viennent, ils gazent tout le monde, ils respectent rien, tu vois. Et même si tu fais une grève, ils peuvent même te mettre en prison à la fin des 90 jours pour ça.
Ah ouais, ça, t'as vu ça arriver à Metz ou à Ménil?
Ici, à Ménilamlo. Ménilamlo. Okay, genre, c'est comme si, en fait, t'as pas le droit de protester, en gros, t'es pas d'accord. Eh ben, tu fais les 90 jours, eh ben, crois-moi qu'ils vont pas te rater. Ils vont soit te remettre là, soit ils vont te remettre en prison.
Ça marche. Je sais pas, toi, est-ce que t'avais envie de dire autre chose, de raconter autre chose
Non, moi, c'est bon, je vous ai tout dit, mais poser les bonnes questions qu'il fallait, ça me va, c'est parfait.
Ça marche, trop bien. Bon, bah,
Ce que je peux dire, c'est que les droits des étrangers, ils sont pas du tout respectés. Moi, c'est la première fois que je fais du centre.
Ouais.
J'ai grandi ici, j'ai passé toute ma scolarité ici, tu vois, j'ai même un enfant ici, j'ai un appartement, bon, j'avais un petit déjeuner, même que j'ai fait de la prison et ils veulent me l'enlever. Je peux dire que c'est la première fois que je vais là, et je peux dire que oui, les droits des étrangers, ils s'en foutent quoi en France, ils respectent rien. Mmh. Voilà, c'est ça.
Ouais.
Ce que je peux dire.
Bah, en tout cas, encore une fois, depuis l'extérieur, on vous envoie plein de force et on essaie de faire en sorte que toutes ces infos, elles sortent, quoi, et que les gens soient plus au courant de la situation dans les CRA, en tout cas.
Donc, bah ouais, c'était un interview qui était réalisé par les poteaux de Abba l'Écra. Et donc, pour rappel, c'est Abba l'Écra avec un s.noblog.org. Donc voilà, ils font un gros taf. Et puis, on leur remercie de nous avoir filé ce son-là. On va passer au coucou dans cette émission où on a rarement autant parlé. Donc, voilà. T'avais des coucous à nous lire ?
Ouais, alors K recherche toujours le rival passé par Plumeur et Châteauroux, fait signe. Un câlin à la belle Marseillaise, Forza Corsica. On attend de tes nouvelles. Un salut fraternel au Grizzly, merci pour ta lettre, et c'est la paix qui mérite un coup de grisou. Salut à qui c'est, à Saint-Maur, Bapaume, Lannemezan, les Baumettes, Angoulême, Villepinte, Bois d'Arcy, Fresnes, Valence. J'en profite pour ajouter Fleury, La Santé, au passage, et Nanterre. Il n'y a pas d'arrangement, et big up à l'équipe du petit hélicoptère. Le numéro 53 arrive bientôt.
Grave, ça a bossé dur. Pas de notre côté, mais ça a bossé dur.
Je vais faire un coucou à Martial, à Ouria, à Karim, ma femme en fait, du coup à Fabrice, à tous les prisonniers de France et d'ailleurs, et... une grosse pensée à eux et à elle.
Moi, j'en rajouterais aussi une pour toutes les proches. Mm. Et puis un gros big up à Sacha.
Et franchement, si vous voulez écrire à Fabrice Borromée, c'est important de le faire. Ouais. Écrivez-nous ou contactez-nous. Donc, on va rappeler une dernière fois les contacts avant de se quitter. Donc, l'envolée-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris. Le téléphone, c'est 07 52 40 22 48. Et sinon, par mail, contact@l'envolée.net et sur tous les réseaux. Et donc, n'hésitez pas à nous écrire et puis on vous filera l'adresse. C'est vraiment important de le soutenir en ce moment dans la période. On se retrouve la semaine prochaine. Rediffusion mercredi matin, 8h30.
Bravo.
Et force, courage et détermination.
Il n'y a pas d'arrangement.
Avec Jadomado et le morceau c'est lourd.
Said I couldn't come in. Some man, French man. They gave me no explanation other than to say we have our orders. We have our orders. We have our orders.
Ce qu'on veut c'est la lumière. Lourd. Shadow Mado Nienzen. J'arrive, je te monte en l'air. On veut 2-3 salaires. On pourrait être niqué de ta mère. Là j'écris sur le périple. Tous les contrats sont scellés. Les honoraires sont payés. Mon baveux est bon pays. Je suis trop fier, c'est obligé. Ça tease un peu, ça fume grave. Nous on sort des halls crades. Moi j'oublie pas Amistad. M'en bats les couilles des tunes. Star, y'a des cris de singe dans les stades. Tu m'arrêtes, là j'suis Neymar. Je veux finir Bouraga sur une plage à Mitsa Miami. Burkan Ziyani, Shingazi, Jana Moali, Shinzouani. Tembe Wet Pamoli pour les mapper à nous aller. Ras des îles. Je mélange créole et swahili, vers port d'oreille. Passe une massage, fais un doré. J'ai 2-3 plans élaborés. J'vais tout rafler comme Bolloré. Passer en Dolori, avenir en coloré. Quand j'étais petit sur Canal Plus, les chaînes sont cryptées. Les mecs dans Zup on barre à battre les cryptons. Toujours zéro en dictée, mais j'connais bien les dictons. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui tape un poste, tape une poste. Air Max et survêt la coste. Délinquant à qui la faute. Misère sociale en est la cause. Damn. Partout c'est la même, balance le haut polygone. Jean Berlière et Valensole, de la source jusqu'à l'Argonne. Y'a du shit qui colle, y'a de la bœuf qui cogne. Dans le monde entier, moi je roule des connes, car je suis en laisse dans toutes les zones. Parce que ça là, mon frère Valon, quête la longue, je suis petit de taille, mais j'ai le bras long. M'arriveront jamais au talon, j'arrive les bras ballants, je leur ferai sucer le canon. J'ai écouté de Marseille jusqu'au Nord, pas calé. Tant gamin, papa, c'est pas de câlin. Fisseur de vie, je suis déréglé, pas déglingué. J'ai trop de talent, j'ai la conso calée. Tourne cette fois ta langue avant de parler. Wesh la mise remplit ton si t'as parlé. C'est pour les refrains au ballon. Libéré, tibère à terre, non ça commence à faire long. Les amitiés c'est les mariages, les enterrements. Le regard en dit long. Fais pas le mec plein, t'as pas un rond. Fais pas le voyou, t'es un marrant. Et à ta mère tu dépales même pas un marron. Béret tous mes
gars de Valence à Ternan, ça commence à faire long. Les amitiés, c'est les mariages, les enterrements, le regard en dit long. Fais pas le mec plein, t'as pas un rond. Fais pas le voyou, t'es un marrant. Et à ta mère, tu dépannes même pas un marron.
Je veux finir pour un gars. Sur une plage à Mitsa Miami, leur canzi ami, je suis gazi, j'en ai moi, je suis zouani, j'aime pas mouli, pour les mapper à nous aller.